Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Priorité santé est aujourd'hui consacrée à la réforme de la santé en France, dont l'objectif est de garantir un accès aux soins équitable et de faire reculer les inégalités de santé. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a présenté un projet de loi de santé au Conseil des ministres au mois d'octobre, une loi qui devrait être votée par le Parlement français au premier semestre 2015. Mais cette réforme soulève de nombreuses critiques, de très nombreuses critiques. Plusieurs syndicats, d'ailleurs, appellent en ce moment à des mouvements de grève. Alors, ils sont nombreux autour de cette table pour en parler. Des représentants des hôpitaux publics et privés, des représentants des médecins généralistes, des différents syndicats et un représentant des patients. Et je vous présente mes invités, Lamine Garbi, qui est président de la Fédération de l'hospitalisation privée, Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France, d'ailleurs, qui devrait arriver, mais qui n'est pas encore dans ce studio. Même chose pour Christian Saoud, qui est secrétaire général délégué du collectif interassociatif sur la santé, le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français, il est médecin à Perpignan, et le docteur Bruno Deloffre, qui est vice-président du syndicat MG France et qui exerce à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine.
RFI.
Bonjour à tous, merci vraiment d'être là pour débattre de ce projet de loi de santé. Christian Saoud d'ailleurs est en train de nous rejoindre dans les studios. On va commencer par parler du tiers payant, c'est vraiment un des gros points d'achoppement sur ce projet de loi. Qu'on explique bien, le tiers payant permet une dispense d'avance de frais. Hein. Le patient ne paye pas le médecin qui sera en fait directement réglé par l'assurance maladie et les assurances complémentaires, et c'est bien là le problème. Docteur Jean-Paul Ortiz, vous êtes contre ce système de tiers payant, vous êtes en grève administrative, c'est-à-dire en grève de transmission des feuilles de soins électroniques. Une grève, franchement, apparemment assez peu suivie, non ? Je me trompe ?
C'est une grève très suivie, contrairement à ce que vous pensez. D'ailleurs, on a fait un peu le chiffrage des feuilles de soins papier qui ont remplacé les feuilles de soins électroniques. On est à peu près à 3 fois plus de feuilles de soins papier qu'avant l'appel à la grève administrative. Je voudrais d'ailleurs souligner que nous ne faisons pas systématiquement une feuille de soins papier. Nous veillons à ce que les patients qui peuvent avoir une difficulté à attendre le remboursement, parce que c'est plus long avec la feuille de papier.
Ça va être beaucoup plus long, ça va mettre même probablement des mois. C'est ce qu'on
est
en train de dire.
C'est la responsabilité de la caisse d'assurance maladie. Mais nous veillons à ce que les patients ne soient pas pénalisés, donc chaque fois nous demandons l'accord du patient. Alors vous dites que nous sommes contre le tiers payant généralisé, c'est pas tout à fait exact. Nous sommes pour un tiers payant social, pour les populations qui effectivement aujourd'hui sont socialement défavorisées, et c'est la Confédération des syndicats médicaux français qui l'a fait mettre dans la convention. Le tiers payant est obligatoire pour la couverture médicale universelle, la CMU, pour la CMUC, la complémentaire, et à partir du 1er juillet 2015, pour l'aide complémentaire santé. Nous avons porté cette extension.
Donc vous êtes d'accord avec cette partie-là?
De ce tiers payant? Absolument. Mmh. Nous sommes d'accord pour un tiers payant social. Je voudrais aussi souligner qu'à partir du moment où le coût de l'acte médical ou de l'examen complémentaire fait est trop important, supérieur à 120 euros, il y a automatiquement un tiers payant qui se fait. Je pense par exemple à une intervention chirurgicale dans une clinique, je pense à un scanner, à une IRM, etc. Donc il s'agit exclusivement et essentiellement de la consultation au cabinet. Et pourquoi nous sommes contre ? Pour deux raisons essentielles. La première, c'est la complexité du dispositif. Et la deuxième, c'est le lien automatique qu'il y aura demain, si ce système se met en place partout, entre le médecin et le payeur qui sera l'assureur obligatoire et complémentaire.
Voilà. Mais de fait, vous êtes en ce moment de fait rémunéré par la solidarité internationale. C'est quand même
bien
la réalité.
Bien sûr que nous sommes rémunérés par la solidarité
nationale.
Qu'est-ce
que ça change que ce soit la Sécu qui vous règle directement ?
C'est vous, patient, qui rémunérez votre médecin et qui vous faites rembourser. Si nous passons à un système où nous sommes directement payés par l'assurance maladie et les complémentaires, ça va être extrêmement complexe. Il y a 550 assureurs complémentaires.
Sur la partie, effectivement, assurance complémentaire, c'est compliqué. Mais c'est sur le principe même, quand même, de ce tiers payant que vous n'êtes pas d'accord.
Encore une fois, le principe au niveau social et pour les actes coûteux, on est d'accord. Chaque fois que cela constitue une difficulté d'accès aux soins, nous sommes d'accord. Mais nous ne voulons pas être en dépendance directe avec le financier qui pourrait être tenté de faire des pressions sur notre stylo parce que c'est le prescripteur, le médecin. Réfléchissons plutôt à la dispense d'avance de frais. Mettons en jeu des mécanismes qui garantissent à toute la population une dispense d'avance de frais. Et il y a plusieurs possibilités.
Mais c'est bien ça, tiers payant.
C'est une des solutions, mais ce n'est pas la seule.
Docteur Bruno Deloffre, vous réclamez depuis plusieurs années, si ce n'est des années, la généralisation de ce tiers payant, mais vous avez appelé à la grève. Autant vous dire que hier, quand j'ai préparé cette émission, j'ai eu un grand moment de solitude parce que je n'y comprenais rien.
Oui, la situation est un peu délicate, effectivement. Nous sommes tout à fait favorables au tiers payant, et là je rejoins la CSMF, après apparemment on est d'accord au moins là-dessus. Nous sommes très favorables au tiers payant dans le cadre des inégalités sociales de santé, donc nous le réclamons depuis très longtemps. Nous négocions avec les mutuelles depuis des années pour essayer de mettre en place un tiers payant par obligatoire, par complémentaire. Le problème de la formulation de cette loi, c'est la notion d'obligation qui n'est pas envisageable, et c'est surtout la complexité du dispositif. Les médecins généralistes en général sont très souvent seuls, n'ont pas de secrétariat. Ils ne peuvent pas se permettre de passer des heures à essayer de faire des rapprochements des règlements qu'ils ont pu recevoir ou pas des mutuelles et après chercher la mutuelle qui aurait dû leur payer et qui leur aurait pas payé.
Pour qu'on comprenne bien ce système, ce qui est proposé dans cette loi, c'est donc le patient ne paye plus son médecin généraliste, vous êtes vous-même rémunéré d'un côté par l'assurance maladie, voilà, sur la grande majorité sur les 23 €, et une petite partie, 6,90 €, voilà, si je ne me trompe, par le régime complémentaire.
Tout à fait.
Et c'est ça qui vous pose problème.
Voilà, ce qui nous pose problème, c'est que, comme vous le dites, on est en principe rémunéré par le RO et le RC.
Le régime obligatoire, donc c'est l'assurance maladie, la Sécu.
L'assurance maladie, on fait du tiers payant tous les jours. Les médecins généralistes utilisent très largement le tiers payant. La CMU marche très bien parce qu'elle est gérée par le régime obligatoire. On n'a pas de problème de remboursement de nos actes. Par contre, quand on commence à s'attaquer aux parts complémentaires qui sont les mutuelles, on se retrouve avec non plus un interlocuteur qui est la caisse d'assurance maladie dont on dépend, mais qui est plus de 500 complémentaires. Et si on n'est pas payé, il faut aller chercher la complémentaire, la contacter et passer des heures
au
téléphone.
Mais c'est déjà ce qui se fait pour les pharmacies, ce qui se fait pour les infirmiers, ce qui se fait, si je ne me trompe, pour les examens biologiques. Alors, donc pourquoi vous ne pourriez pas faire la même chose ?
Tout à fait. Seulement, la différence, c'est que les pharmaciens se sont équipés de dispositifs facilitant le recouvrement de ces tiers payants et que nous n'avons nous pas les moyens de nous équiper de ce genre de dispositif.
Chacun en individuel, c'est
Chacun
ça
en individuel.
Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, par rapport à la problématique des pharmaciens et des infirmières, par exemple, dont on parle souvent. Je voudrais faire deux remarques. D'abord, ce sont des professionnels de santé qui exécutent une prescription médicale. La deuxième chose, et mon confrère vient de le rappeler, il s'agit de professionnels qui ont mis en place des dispositifs leur permettant de vérifier tout ce tiers payant qui ne rentre pas, en particulier les assureurs complémentaires. Vous savez combien ça coûte à une pharmacie? C'est un de mes confrères pharmaciens qui me l'a dit, ça lui coûte 800 € par mois pour récupérer le tiers payant, en particulier auprès des assureurs complémentaires. Or aujourd'hui, seuls 40% des médecins généralistes ont une secrétaire. Ça veut dire qu'on va recharger la barque de la bureaucratie et du temps passé à faire de l'administratif pour les médecins généralistes. On n'en veut pas.
Christian Saout, votre point de vue, vous représentez ici les patients, vous êtes secrétaire général délégué du collectif interassociatif sur la santé. Vous en pensez quoi de ce tiers payant ?
Mais nous, on a déclaré depuis extrêmement longtemps qu'on était favorable au tiers payant généralisé et obligatoire.
Et obligatoire.
Donc
et quand vous les entendez...
C'est d'une limpidité totale et extrêmement
alors,
simple.
Pourquoi vous
et
êtes
je n'ai pas besoin de passer, comme Jean-Paul Ortiz ou d'autres, 10 minutes à expliquer pourquoi je suis contre. Nous sommes pour, parce que c'est simple, parce que nous avons en France des obstacles financiers à l'accès aux soins. Il n'y a pas que des obstacles financiers, mais il y a notamment des obstacles financiers. Et dans un pays comme le nôtre, un pays démocratique, un pays riche, un pays avancé, la réduction des obstacles financiers à l'accès aux soins doit être un enchantement pour tous. Voilà.
Et quand les arguments avancés quand même par les syndicats de médecins qui disent entre autres que sur la partie des complémentaires de santé, sur ces 6,90 €, c'est vrai que ça va être un peu compliqué
oui,
quand même.
Oui, bien sûr, mais... Essayons de nous intéresser aux choses positives et à la réduction de la complexité. C'est d'ailleurs un grand chantier initié par le président de la République lui-même, celui de la simplification de la vie des Français, quels qu'ils soient, professionnels de santé, patients, usagers de n'importe quel service public. Donc tout ça est une bonne invitation à simplifier les choses. C'est pas la peine de dire que le tiers payant est une horreur sous prétexte que les complémentaires n'ont pas réussi à inventer en 30 ans ou 40 ans la carte vitale complémentaire. Faisons-le maintenant. Essayons de le résoudre. Et d'ailleurs, les complémentaires le proposent. Donc, regardons comment cela est possible. Si effectivement, comme dit Jean-Paul Ortiz, ça a une incidence financière sur le professionnel de santé, mais discutons à ce moment-là, dans le cadre de la convention médicale, la façon dont cet impact financier peut être répercuté dans le cadre de la rémunération des professionnels de santé. Au lieu de dire qu'on est contre, disons, puisqu'on n'est pas hostile au principe, dans quelles conditions Cela peut se mettre en œuvre. Et dernier élément pour lequel nous avons un puissant désaccord avec ce qui vient de se dire autour de la table, c'est que nous ne souhaitons pas un cran de plus dans la charité. C'est-à-dire d'être obligé de déshabiller sa vie privée, sa vie économique chez le médecin. On est déjà en situation de déshabiller son corps. Maintenant, on va devoir aussi déshabiller son âme. Et comment est sa vie? Ce mois-ci, ben, je n'ai pas pu manger, ou voilà. Est-ce que c'est ça qu'on veut, au fond? Ce qui nous avait grandi avec l'assurance maladie universelle, ce qui nous avait grandi avec cette invitation du Conseil national de la résistance, c'est de faire en sorte, au fond, que sa santé ne demande plus d'un geste de charité. Ce qu'on nous propose là, c'est au fond le retour au passé, le retour sur le devant de la scène thérapeutique, de la charité. Est-ce que franchement ça nous grandit? Je ne crois pas.
Docteur Jean-Paul Ortiz, vous vouliez réagir?
Je voudrais quand même faire remarquer que la mise en place du tiers payant généralisé aura un coût estimé à autour de 800 millions d'euros par an, premièrement.
Pourquoi ça coûtera autant?
La gestion d'une feuille de soins était estimée aujourd'hui à 3,50 €. Si on met en place un système, effectivement, qui soit simple, entre parenthèses, les assureurs complémentaires n'en veulent pas, mais ça, c'est un autre problème. Si on met en place un système simple, il va bien falloir centraliser l'ensemble de ces informations. Parce que nous, médecins, on va pas envoyer à 550 débiteurs potentiels différents. Il faut donc mettre en place un concentrateur, il faut imaginer un système qui réunisse tout ça. Donc, ça va coûter de l'argent. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, certes, la France est un pays riche, mais malheureusement, nous avons des contraintes économiques.
L'argument que vient sur la distinction entre gens finalement pauvres, entre guillemets, et ceux qui sont plus riches, et du coup, l'argument...
Mais justement, nous partageons avec Christian Saout, au-delà de nos différentes appréciations, le souci de garantir à tous les Français une accessibilité aux soins simplifiés.
Mais lui, ce qu'il veut, c'est pas la peine de faire.
Mais c'est peut-être pas la peine de mettre en place un système coûteux pour les habitants des beaux quartiers qui n'en ont pas besoin. Réfléchissons à la dispense d'avance de frais pour tous et examinons l'ensemble des solutions. Le tiers payant généralisé en est une. Il y en a d'autres sur la table, en particulier le paiement monétique à différé santé ou des systèmes de chèques santé ou de cartes diverses et variées. Donc effectivement, il y a d'autres solutions au-delà du tiers payant généralisé.
Bruno Delofre du syndicat MG France.
Je reprendrai ce qu'a dit Monsieur Saout. Nous, médecins généralistes, nous connaissons très bien nos patients. On les voit régulièrement, on connaît parfaitement leur situation. Donc effectivement, il n'est pas question, et je comprends parfaitement que ça soit un point de réticence, il n'est pas question de demander au patient de solliciter à son médecin le tiers payant. Et c'est bien pour ça que nous essayons de travailler depuis très longtemps sur un tiers payant simple. La solution existe, vous avez parlé, Monsieur Saout, de carte mutuelle. En fait, la carte vitale peut contenir les informations des mutuelles. Il suffirait de les utiliser, ce que les mutuelles ne veulent pas faire. Elles s'y refusent depuis que la carte vitale existe. Nous, ce que nous demandons, c'est un système simple type CMU qui marche très bien. C'est la Sécu qui paye et qui se retourne après vers les mutuelles pour se faire rembourser.
Oui, c'est ça. Vous, la solution, ce serait OK, on y va pour le tiers payant généralisé. Simplement, c'est la Sécu qui se débrouille.
La Sécu nous paye et elle se retourne vers les mutuelles. C'est comme ça que fonctionne aujourd'hui la CMU et c'est comme ça que va fonctionner demain l'ACS, l'aide à la complémentaire santé.
Cadre-là, vous êtes d'accord sur le tiers payant généralisé?
Parce que ce que nous voulons, c'est un tiers payant simple, un interlocuteur unique, un envoi unique de feuilles de soins vers un seul interlocuteur et une garantie de paiement. La CMU, on a ces garanties, on a ce système. Si on généralise ce type de tiers payant, ça ne nous pose plus aucun problème. Mais aujourd'hui, les mutuelles ne veulent pas le faire. Alors je reviendrai sur la notion d'obligation. Essayer de dire le tiers payant doit être obligatoire, c'est le meilleur moyen de bloquer les médecins. Les pharmaciens n'ont aucune obligation de faire du tiers payant. Est-ce que vous connaissez une pharmacie qui ne fait pas de tiers payant? Si on a effectivement un tiers payant simple, fiable...
On joue sur les mots, là.
Non, pas du tout. Si on a aujourd'hui un système de tiers payant simple et fiable, les médecins feront du tiers payant, parce que les assurés le demanderont et que les médecins suivront de toute façon, obligés ou pas, par leurs patients, par la pression. Donc ne mettons pas dans la loi que c'est une obligation, ça sera de fait une obligation le jour où ça fonctionnera bien.
Alors, il n'y a pas que cette question du tiers payant, même si pour l'instant, la polarisation est là-dessus. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé si vous étiez en grève, Bruno Delors. l'offre, vous?
En grève administrative.
Administrative, oui, on est bien d'accord. C'est-à-dire, vous faites quoi? Vous faites que des feuilles de soins à vos patients,
je
là?
Je n'utilise plus les services en ligne de la sécurité sociale, donc les arrêts de travail en ligne, les protocoles de soins pour les demandes de 100% en ligne, et je fais ponctuellement des feuilles de soins papier, pour des patients qui sont d'accord pour que je le fasse.
Et qui n'ont pas trop de problèmes.
Ce qui veut dire pas beaucoup de feuilles de soins papier, je le reconnais.
Mais il n'y a pas que ça dans ce projet de loi. On va essayer d'avancer sur les autres propositions. Vous, Lamine Garbi, vous représentez, vous êtes président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Je dois dire que, du coup, d'ailleurs, vient de nous faire faux bond Frédéric Valtoux, qui est président de la Fédération hospitalière de France, donc qui représentait le côté public et dont on vient d'apprendre que finalement il vient pas, alors que hier soir il était bien prévu. Ce qui nous étonne d'ailleurs toujours, comme procédé, très honnêtement. Lamine Garbi, vous dénoncez dans cette loi en général l'étatisation rampante du système de santé. Pourquoi? J'avais plutôt l'impression, moi, qu'on assistait à une privatisation du système de santé.
Tout d'abord, je voudrais m'associer, je dirais, au propos de nos amis médecins et exprimer notre aide. Et c'est vrai que la médecine libérale est en grande difficulté. Je pense qu'il faut entendre. Il faut entendre ces médecins qui, jour après jour, se battent pour défendre une médecine libérale de qualité. Et c'est vrai que le malaise est profond et donc je voulais apporter mon soutien de la fédération. Effectivement, ce projet de loi, pour nous, porte en ses germes l'éviction d'une part de la médecine libérale, ça a été dit avec un de ses aspects, le tiers-payant généralisé, mais également l'éviction de l'hospitalisation privée et de ses missions fondamentales de service public. Nous prenons chaque année 8 millions de patients, dont 3 millions en urgence. Donc ce sont des patients, par définition, qui sont publics, donc ce sont des missions de service public. Et c'est vrai que ce projet de loi a une volonté de remettre l'hôpital au centre du dispositif, l'hospitalocentrisme que nous dénonçons. Et
quand vous dites l'hôpital, c'est l'hôpital public.
L'hôpital public, voilà, le dogme de l'hôpital public. Et de dire que tout hôpital public sera de droit service public hospitalier. Et nous revendiquons également, au sein de la fédération que je représente, ces missions-là. Mission d'accueil des urgences, mission d'enseignement et de formation de nos jeunes médecins, des internes, mais également des infirmiers, des infirmières. Innovation également, donc ce sont trois missions importantes au sein de la fédération, et c'est vrai que les urgences, pour nous, c'est une mission fondamentale d'accès aux soins et je dirais d'équité. Donc nous ne pouvons accepter ce projet de loi en l'état, car il porte en lui les germes de l'éviction de la fédération.
On parlera entre autres de la question des dépassements d'honoraires. Christian Saout, vous avez l'impression, vous, que cette loi est une étatisation rampante du système de santé? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Garbi?
Écoutez, j'ai beau la lire, et j'ai quelques ressources personnelles en matière de droit administratif, j'ai beau la lire, et je ne trouve pas la description que l'on en fait. Alors c'est probablement que je suis peut-être trop proche de la vie administrative et peut-être trop bienveillant à l'égard de ce texte. Mais j'observe en tout cas qu'il convoque la colère des uns et des autres.
Les crispations. Entre particulièrement du privé, effectivement.
Mais oui, mais bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça. C'était déjà comme ça, je le rappelle à ceux qui ont un âge voisin du mien, pour la loi Bachelot, c'était déjà comme ça pour la loi Kouchner. À croire que dès lors que la puissance publique veut imprimer sa marque, et c'est bien légitime, puisqu'il s'agit de cotisations sociales payées par l'ensemble des Français sur le système de Français, se lève une horde d'acteurs divers et variés pour être opposés. Que n'a-t-on entendu sur la loi HPST de Mme Bachelot? Que n'a-t-on entendu sur la loi Kouchner? Tout ce qui a été reproché à la loi Kouchner n'est pas arrivé, tout ce qui a été reproché à la loi HPST n'est pas arrivé non plus. Donc je crois qu'il faut arrêter avec les fantasmes et regarder les choses de près. Alors peut-être qu'on s'y est mal pris pour ce projet de texte. Peut-être qu'il faut faire, comme le Conseil national de l'Ordre des médecins le dit, un Grenelle de la santé. Nous-mêmes avions proposé, avant l'écriture du projet de loi, la réunion de nouveaux états généraux de la santé. Parce que nous pensons que sur un domaine comme celui-là, à l'évidence, il faut rechercher un pacte entre l'ensemble des parties prenantes. Voilà, nous n'avons pas été entendus, il se trouve qu'il y a un texte. Dans ce texte, il y a un certain nombre d'aspects que nous soutenons parce qu'ils sont extrêmement favorables aux patients, et donc nous sommes en situation de soutenir ce texte parce qu'il comporte à l'intérieur un certain nombre de dispositions sur l'information des usagers du système de santé, sur l'accompagnement des patients. Voilà, il ne va évidemment pas assez loin pour nous. On aurait rêvé, nous aussi, d'un autre texte. Mais celui qui est sur la table comporte des avancées pour nous.
On y revient, si vous voulez bien, dans 3 minutes, hein, juste après les informations. Vous nous direz justement en quoi ce texte est favorable aux patients. On continue donc ce débat sur la réforme de santé en France.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du projet de loi de santé en France qui soulève de nombreuses critiques. Plusieurs syndicats ayant appelé d'ailleurs à des mouvements de grève. Autour de cette table, ils sont quatre. Ils représentent les hôpitaux privés. Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée. Christian Saoud, qui est secrétaire général délégué du collectif interassociatif sur la santé. Le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Et le docteur Bruno Deloffre, qui est vice-président du syndicat MG France. Christian Saoud, juste avant les informations, vous vous représentez le côté des patients. Vous nous disiez, mais finalement, cette loi, elle est pas mal pour les patients. En quoi donnez-nous quelques éléments qui montrent qu'elle est bien pour les patients?
Je vais prendre deux exemples. Par exemple, on se propose de créer en France un service public d'information en santé. On attend ça depuis à peu près deux décennies.
Qui permet quoi, en gros?
Qui permettrait notamment à n'importe quel citoyen d'avoir des informations sur une maladie, sur les traitements qui sont potentiellement disponibles,
sur qui est de garde aussi.
Qui est de garde, où sont les ressources. Voilà, c'est une sorte de GPS de la santé, comme certains ont pu le formuler. C'est plutôt une bonne idée. Il est vraiment plus que temps de le faire. Deuxièmement, il y a la possibilité créée par la loi d'expérimenter des projets d'accompagnement des patients. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une montée des cas complexes, notamment des cas chroniques. On n'est plus, bien sûr, il reste toujours des interventions chirurgicales, on en sort guéri, mais il y a aussi de plus en plus de maladies chroniques. Maladies chroniques, c'est beaucoup de complexité.
Cette éducation thérapeutique, elle n'est pas forcément à faire par le médecin, ça peut très bien être d'autres patients.
Non, parce qu'en plus, l'éducation thérapeutique telle qu'on l'avait fait dans la loi de Mme Bachelot en 2009, franchement, ça n'a pas donné tous les espoirs que l'on attendait, donc il faut probablement passer à une nouvelle étape. Donc vous voyez, dans cette loi, il y a des choses qui sont, du point de vue des patients, du point de vue des usagers du système de santé, des éléments qui sont favorables. Donc voilà.
Et la possibilité d'action de groupe aussi, du côté des patients, ça vous paraît intéressant?
Oui, bien sûr, il y a déjà l'action de groupe en consommation qui peut permettre d'attraper un certain nombre de problématiques de santé, notamment les tarifications dans les cliniques privées, sujet auquel je suis sûr que Lamine Garbi sera sensible, puisqu'il y a aujourd'hui des cliniques privées qui font des tarifications administratives, des forfaits administratifs, dont nous pensons qu'ils n'ont pas de base légale. Le juge sera prochainement invité dans le cadre d'une action de groupe à dire si c'est légal ou pas légal et à dire s'il faut rembourser ou pas rembourser. Donc voilà, c'est
ça. Donc il y a des éléments positifs dans
cette loi. Voilà, il y a des éléments positifs du point de vue de l'usager du système de santé. C'est plutôt sain que l'on se mette, du point de vue de l'action de groupe, à parité avec les grandes démocraties modernes. Je pense que personne ne peut être opposé à cela. Ça apportera de la clarification pour un certain nombre de choses.
Lamine Garbi, vous qui représentez la Fédération de l'hospitalisation privée, vous avez envie de répondre d'abord parce que Christian Saoud vient de vous interpeller et puis sur d'autres points.
Oui, le forfait administratif dont M. Saoud vient de parler est un forfait, je dirais, qui est un petit peu comme une chambre particulière. C'est à la charge du patient, mais s'il le souhaite, c'est en aucun cas une obligation.
C'est quoi exactement?
C'est pour prendre en charge des démarches de recherche, assistante sociale, je dirais, de parcours de soins. Voilà, c'est une logique également en interne, si on veut avoir un supplément à la chambre particulière ou également avoir un plus. Donc c'est vraiment laissé au libre choix du patient, il n'y a aucune obligation. Donc vraiment, le débat n'est pas cette thématique-là, et je pense que le sujet est beaucoup plus lourd, ce projet de loi, que ce débat-là. Non, peut-être que regretter que ce projet de loi ne parle pas d'efficience publique-privée. On sait tous qu'il y a 100 000 lits d'hospitalisation publique en trop, donc pourquoi on n'en parle pas? On sait tous qu'il y a un écart de tarif entre le public et le privé, 20% pour une même opération, une cataracte, une appendicite.
Ce chiffre-là qui est toujours donné, moi, il y a quelque chose que je comprends pas, parce que je crois que le salaire du chirurgien n'est pas compté dans cette différence que vous faites.
Tout est inclus. Tout est inclus. D'abord, au sein des cliniques hôpitaux privés, on ne parle pas de salaire, ce sont des honoraires, parce que les médecins dans les établissements sont les médecins libéraux et indépendants. Mais lorsque je compare une prothèse de hanche, j'inclus bien évidemment les honoraires et aussi les compléments d'honoraires. C'est important de le dire. C'est-à-dire que je compare deux blocs totalement équivalents. Et il y a 20% d'écart, c'est-à-dire qu'une prothèse de hanche dans le public, c'est 6 000 euros et dans le privé, c'est 5 000 euros. Et cet écart n'est toujours pas réduit. Et il n'y a aucune explication, je dirais, économique, logique, rationnelle à cet écart. Donc il faut qu'on se penche sur cette efficience. La loi ne le prévoit pas et c'est un regret, parce que ce serait des millions et des millions d'euros, nous l'avons estimé à 10 milliards d'euros. C'est-à-dire que on est en train aujourd'hui de se disputer, je dirais, sur des questions de détail, alors qu'on pourrait remettre à jour l'assurance maladie, on pourrait l'équilibrer du jour au lendemain avec cette convergence tarifaire. L'Allemagne l'a fait, le régime aujourd'hui est excédentaire en Allemagne. Pourquoi la France ne le fait pas? C'est un blocage idéologique, économique. Parlons-en, ouvrons nos livres, et c'est vrai que je m'aperçois aujourd'hui que les hôpitaux commencent à avoir des comptes certifiés. le CHU de Montpellier a ses comptes certifiés. C'est quand même extraordinaire qu'au bout de 20 ou 30 ans de combat idéologique, nous arrivons enfin à avoir à faire en sorte que les comptes des hôpitaux publics soient transparents et certifiés. Donc c'est vrai que c'est une demande qui est récurrente. Donc plongeons-nous sur les vraies problématiques économiques, et sortons, je dirais, de ces petites guerres publiques-privées, parce que, en plus, la fédération d'hospitalisation publique n'étant pas là, je ne vais pas sans eux.
On va avoir dans un instant le professeur Grimaldi, que vous connaissez bien, qui réagira. Mais Christian Saoud, peut-être
dire à Lamine Gabi que moi je partage son opinion. Je pense qu'il faut sortir de toutes ces querelles-là. Il est quand même significatif que Monsieur Macron a demandé, pas plus tard qu'hier, qu'il y ait une expertise indépendante sur son projet de loi. Il a demandé ça à France Stratégie, l'organisme public. Il n'a pas demandé à l'organisme public de le faire. Il a demandé à l'organisme public d'organiser une expertise indépendante. Je pense que sur un projet aussi important que celui de la loi santé, l'organisation d'une expertise indépendante nous permettrait peut-être aussi de sortir des appréciations parfois hasardeuses ou des anathèmes sur un certain nombre de choses et essayer de progresser ensemble, parce que le sujet qui soulève est une vraie difficulté, celui de l'efficience, celui du juste soin. Dans un pays où il y a des études déclaratives faites auprès des médecins qui montrent qu'il y a 30% de soins inutiles, oui, effectivement, il a raison, nous avons rééquilibré l'assurance maladie.
30% de soins inutiles, mais là aussi bien dans le public que dans le privé.
Mais bien entendu, autant dans le public que dans le privé. Mais 30% de 175 milliards, je rappelle, ça fait déjà plus de 50 milliards d'euros. Donc elle est largement rééquilibrée, l'assurance maladie. Nous avons dans ce pays, avec l'argent dont nous mettons sur la table...
Alors là, ils veulent tous intervenir.
Avec l'argent
qu'ils mettent... Ils ne sont pas contents qu'on dise qu'ils font des soins inutiles.
Pardonnez-moi, Claire. C'est une étude déclarative faite auprès des médecins eux-mêmes, tous médecins confondus, public, privé, libéraux, salariés. Ce n'est pas une invention du collectif interassociatif sur la santé. Et cette étude française est redoublée par les études américaines. Et c'est malheureusement une propension.
Pas mal d'examens.
Et oui, parce qu'on fait tourner pour aboutir, pour financer le système de santé. Au fond, on prescrit et on fait probablement plus d'examens, plus d'analyses, plus d'interventions qu'il ne serait.
Alors, ils veulent
juste
tous réagir là-dessus. D'abord, peut-être, docteur Bruno Deloffre de MG France, et puis après, Jean-Paul Ortiz.
Oui, dans les interventions, la situation était parfaitement décrite. L'hôpital est au centre du dispositif. Le système de santé est en grande difficulté. C'est vrai pour la médecine générale, qui est en déclin permanent. On parle des zones des déserts médicaux. Il faut savoir que nous sommes ici dans le département des Hauts-de-Seine, qui est un département plutôt aisé, riche. Il faut savoir que c'est le 4e département de France en termes de sous-médicalisation. C'est pas la campagne qui est sous-médicalisée. Aujourd'hui, c'est l'Île-de-France, avec 2/3 des médecins qui ont un âge moyen de 57 ans. Je parle des médecins généralistes. Ce qui veut dire que dans les 8 ans, 2/3 des médecins généralistes vont disparaître.
Particulièrement dans certaines banlieues. Hein.
Les chiffres, dans toute la région, et y compris dans les Hauts-de-Seine. Les chiffres, 2500 départs à la retraite de médecins généralistes par an, 1200 installations. Donc le vrai problème aujourd'hui du système de santé, c'est les soins de premier recours, qui sont les soins quotidiens d'assurés. Je veux bien qu'on discute.
Et vous trouvez que la loi ne met pas l'accent là-dessus?
Aucunement. La loi met l'accent sur l'hôpital, sur des soins évolués, mais qui ne sont pas le quotidien du patient. Le quotidien du patient, c'est le soin de premier recours, et l'hôpital n'a pas vocation
payant,
à faire...
Le tiers payant, c'était bien quelque chose pour le patient.
Oui, mais l'hôpital n'a pas vocation à faire des soins de premier recours. Les soins de premier recours, c'est favoriser l'installation des médecins généralistes qui aujourd'hui ne veulent pas s'installer, favoriser la protection sociale, en particulier des jeunes consoeurs, puisque la profession se féminise et qu'aujourd'hui on doit être à 80% de femmes, et qu'une jeune consoeur qui s'installe et qui est enceinte parce qu'elle n'a pas pu démarrer une grossesse pendant ses études, elle va la démarrer une fois installée, n'a actuellement aucune ressource. Elle va être obligée de quémander pour arriver à survivre. Donc c'est ça qu'il faut favoriser.
De Jean-Paul Ortiz.
Oui, je pense que le vrai problème de notre système de santé en France aujourd'hui, c'est la structuration générale, parce que c'est un système qui est extrêmement hospitalo-centré. Quand vous regardez les chiffres par rapport aux autres pays européens, nous avons 6,4 lits pour 1000 habitants en France, 4,6 en moyenne dans les pays de l'OCDE, 2,8 au Royaume-Uni. On ne peut pas dire qu'avec une telle différence, les pays de l'OCDE soient plus mal pris en charge d'un point de vue santé. Donc, on a un système qui est beaucoup trop...
Mais ça, c'est pas que l'hôpital public, c'est autant public que privé.
Hôpital centré, essentiellement l'hôpital public. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons une médecine de proximité dans tous ces aspects. Je voudrais revenir par rapport à la médecine générale, qui est extrêmement démunie. Parce qu'on parle beaucoup des médecins généralistes. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les médecins spécialistes qui sont installés en pratique libérale sont en train de disparaître. Aujourd'hui, 3 ans après l'obtention de leur diplôme, seuls 4,5% des pédiatres nouvellement diplômés s'installent en pratique libérale. Madame, demain, vous n'aurez plus de pédiatre en ville. De la même façon, vous avez, et pourquoi? Parce qu'ils ont des niveaux de revenus qui sont même...
C'est surtout très difficile d'en trouver en ce moment en secteur 1.
Bien sûr. Mais en plus, Paris n'est pas la France. La majorité des pédiatres aujourd'hui sont en secteur 1. Mais en plus, aujourd'hui, vous avez disparition des pédiatres, des endocrinologues, des psychiatres, etc. Parce qu'ils sont dans cette situation-là. Et on parlait tout à l'heure, effectivement, de l'efficience et des actes qui sont éventuellement répétés. Je vais vous donner un exemple. Et c'est ça le fond du problème de notre système de santé. Nous avons des barrières entre l'hôpital et la ville. Un patient, il est hospitalisé. À la sortie d'hospitalisation, grande révolution dans la loi de santé, nous allons enfin avoir une lettre de sortie. Vous vous rendez compte d'où nous venons? Or, ce que nous réclamons, c'est qu'il sorte de son hospitalisation à l'hôpital public avec l'ensemble des examens complémentaires qui ont été réalisés.
Pour pas vous les
refassiez. La biologie, le scanner, l'IRM, etc. Ça nous évitera de le refaire en ville. Et effectivement, ça évitera les actes redondants.
On a au téléphone le professeur André Grimaldi, diabétologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, que vous connaissez tous bien autour de cette table, grand défenseur de l'hôpital public. Merci beaucoup, professeur Grimaldi, d'être avec nous en ligne. Frédéric Valtoux devait être avec nous. Il est président de la Fédération hospitalière de France. Ça nous paraissait important d'entendre quelqu'un qui défende l'hôpital public, parce que je ne vous cache pas que depuis un petit moment, ils sont tous en train de tirer à boulet rouge sur l'hôpital public, entre autres avec la question dont parlait Lamine Garbi juste avant qu'on vous ait en ligne, sur la question des écarts de tarifs entre le public et le privé. Professeur Grimaldi, qu'est-ce que vous en pensez?
Ces polémiques, corporatistes, me semblent hélas dérisoires. On fait pas du tout la même chose que les cliniques commerciales. Les cliniques commerciales choisissent, on peut pas leur reprocher des activités rentables. Si l'accouchement par voie basse n'est pas rentable, elles peuvent pas le faire, donc la maternité va fermer. L'hôpital a des missions de service public. Il y a 17 millions de passages aux urgences. Alors arrêtons ça et posons les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est que la France n'a pas de service public, la médecine de proximité, de premier recours notamment, mais de proximité, qui n'est pas l'hôpital. Et qu'ainsi, la consultation d'urgence est devenue la consultation du pauvre. Pourquoi? Notamment parce qu'il y a un tiers payant. Donc ça serait bien qu'on ait un tiers payant en ville. Mais évidemment, on tombe sur d'autres problèmes qui sont ces 500 complémentaires, assurances complémentaires privées. Et c'est pas aux médecins généralistes de gérer ce problème-là. Donc il faudrait qu'il y ait un interlocuteur unique. La ministre, ne peut pas échapper à cette question. C'est pas aux généralistes de gérer les rapports entre les complémentaires et leurs patients.
Vous avez vu la ministre de la Santé la semaine dernière, justement. Est-ce que vous l'avez interpellée sur cette question du tiers payant et de l'argument avancé par les médecins qui disent « mais c'est pas à nous de gérer la question des complémentaires ». Pourquoi finalement ce serait pas la Sécu intégralement?
Je pense qu'elle va reculer, comme elle recule sur à peu près tout.
Mais ça veut dire qu'on n'aura pas de tiers payant?
Cette loi a été mal fagotée. Elle a réussi à mettre tout le monde contre la loi, alors que ces gens ne sont pas d'accord entre eux. Entre MG France et CSMF, il y a de grandes divergences. Discutons de ces divergences. Alors, le paiement à l'acte, les médecins libéraux sont très attachés au paiement à l'acte, mais ça fait qu'ils sont amenés à voir pour 23 euros la consultation 9 fois par an un patient diabétique, alors que s'il y avait une capitation, un forfait annuel, on vous donne 150 euros et vous verrez le patient autant qu'il est nécessaire, parce qu'il y a des patients qui peuvent être vus tous les 6 mois. Ou tous les ans, et il n'y a pas besoin de les voir tous les mois pour renouveler l'ordonnance. Donc gagnons du temps médical. Le paiement à l'acte, c'est l'équivalent de la tarification d'activité à l'hôpital, qui a mis l'hôpital, nous en tout cas pour les maladies chroniques, dans une situation de faire toujours plus avec toujours moins. Donc on va tous se plaindre. Alors changeons le système. Est-ce qu'on peut avoir des médecins qui travaillent en ville avec des infirmières, qui ne font pas toutes les tâches, qui forment des groupes?
Toute la question de délégation de tâches.
Et à l'État de prendre en charge des tâches administratives. Nous avons tous trop de tâches administratives. Donc est-ce qu'on peut réagir ensemble en disant la santé est un bien commun, c'est pas un bien privé, hein, parce que le bien privé, on connaît, c'est le modèle américain, c'est 18% du PIB, deux fois plus que la France. Arrêtons de tirer sur l'hôpital, arrêtons de tirer sur les médecins libéraux, est-ce qu'on peut se coordonner et travailler ensemble? C'est une autre organisation de la médecine, mais faut vouloir arrêter le paiement à l'acte, faut être d'accord avec le tiers payant, hein, pour pouvoir et vouloir travailler en équipe. Pas seul dans son cabinet. Alors c'est en route, ça se fait, c'est ça qu'aurait dû faire la loi. La loi, elle passe à côté de son sujet.
Tout à fait. Juste une dernière question, professeur Grimaldi, mais vous restez en ligne et vous pourrez réintervenir. Ce que j'ai l'impression dans ce que vous dites, c'est que cette loi, et c'est un peu ce que disait Christian Saoud, elle va être enterrée avant même d'être sortie, c'est-à-dire qu'en fait, il va rien se passer.
Il faudrait qu'il en reste un minimum de choses quand même. Par exemple, les actions de groupe pour les patients, ça serait un progrès. Un
nombre de choses. Mais le tiers payant, c'est terminé.
Le tiers payant va être sûrement reclus dans sa pratique, mais ça c'est pas choquant. Au fond, peut-être qu'il faut faire seulement un tiers payant pour la part sécurité sociale. Mais le fond du problème, c'est que vous voyez bien qu'en France, pour chaque soin, il y a deux gestions. On dépense pour la gestion en France 16 milliards pour la gestion du système de santé, le double de la moyenne des pays de l'OCDE, parce que tout est fait en double en France. Tout. Hein?
Alors, mais quand on va plus loin dans votre raisonnement, alors professeur,
une gestion.
Oui, c'est ça. Mais professeur Grimaldi, si on va plus loin dans votre raisonnement, ce serait quoi? Ce serait ce que défend aussi Didier Tabuteau, tout sur la Sécu et plus d'assurance complémentaire, c'est ça?
Ça renvoie à ce que dit Didier Tabuteau, mais aussi Brigitte Dormont, c'est-à-dire que il y a la sécurité sociale qui prend un panier de soins solidaire à 100%. Par exemple, il n'est pas normal que la sécurité sociale rembourse des princeps quand il y a des génériques. Écoutez, pour le Crestor, la seule statine non génériquée, en France, c'est 30% des prescriptions de statine. En Allemagne, c'est 3%. C'est des centaines de millions pour la sécurité sociale. Les cures thermales sont remboursées, c'est 250 millions pour la sécurité sociale. L'homéopathie est remboursée, c'est 150 millions pour la sécurité sociale. Alors, il pourrait y avoir des assurances non plus complémentaires, mais supplémentaires. Ce qui n'est pas indispensable, eh ben, vous le payez par le biais d'une assurance. Ce qui est indispensable, c'est la collectivité qui le paye.
Et en tout cas,
à charge, nous, d'être responsables des deniers qui nous sont confiés. Et l'hôpital ne doit faire que ce que la ville ne peut pas faire. Sur ça, c'est un principe évident.
Et professeur Grimaldi,
il faut arrêter d'accuser les uns et les autres, parce que s'il y a 17 millions de passages aux urgences, c'est pas parce que l'hôpital attire les patients volontairement.
C'est ça, et améliorer le dialogue. Je pense que vous êtes quand même d'accord avec ça, Lamine Garbi, et avec ça, moi j'ai l'impression que ce débat hôpitaux publics privés, d'ailleurs vous l'avez dit en venant vous asseoir ici, on l'a déjà eu plusieurs fois quand même.
Oui, et je pense qu'il faut dépasser effectivement ce débat public-privé. Je suis d'accord avec le professeur, et je suis d'accord pour dire que la Fédération veut accentuer sa prise en charge des urgences, veut également participer, et c'est vrai que nous prenons en charge 3 millions, et donc nous voulons assurer ces missions de service public, donc nous sommes vraiment dans une démarche de service public. Sur le trop de lits, juste une précision sur les cliniques hôpitaux privés. Nous étions 2000 cliniques il y a 20 ans, nous sommes 1000, donc nous nous sommes réorganisés. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, un lit vide dans l'hospitalisation privée ne coûte rien parce que nous sommes tous tarifés à l'activité. Donc il n'y a pas, je dirais, de surconsommation au sein de l'hospitalisation privée. J'aimerais m'adresser à Monsieur Saout et lui lancer un pari pour travailler sur le reste à charge. Je sais que c'est un combat que vous menez, et c'est vrai que le reste à charge...
C'est ce qui reste à la charge du patient une fois qu'il a été remboursé par la Sécu par des complémentaires s'il en a.
Au sein de l'hospitalisation, je ne parlerai pas de la médecine libérale de cabinet, au sein de l'hospitalisation, on sait tous, et vous avez publié un rapport, M. Saoud, qui dit que le reste à charge au sein de l'hôpital public est de 333 euros par patient. Au sein du privé, 220 euros. Donc déjà, on se rend compte que peut-être le privé est plus accessible que l'hôpital public. Et j'aimerais que l'on continue pour que public et privé, nous soyons un reste à charge à zéro. Les deux. Je ne veux pas différencier le public et le privé parce que nous sommes tous, je dirais, solidaires. Solidaires des patients que nous prenons en charge.
Juste sur ce chiffre que vous venez de donner, j'imagine aussi que ceux qui vont dans les cliniques privées ont une assurance complémentaire meilleure et donc du coup mieux pris en charge. Et c'est pour ça que le reste à charge est plus faible.
Il faut arrêter de penser que nos patients ont tous des cartes vitales Gold Platinum. Nous avons 35% de patients qui sont bénéficiaires malheureusement de la CMU, donc nous prenons en charge tout le monde. Non, ce reste à charge vient du mode de tarification. Donc c'est un débat complexe qu'il faut avoir et je suis d'accord. Et je serai prêt à travailler, avec M. Saout et le CIS pour pouvoir évoquer cette problématique et surtout trouver des solutions communes. Public, privé. Donc vous voyez, la Fédération a une volonté forte de s'investir pour l'intérêt général des patients que nous prenons en charge.
Jean-Paul Ortiz.
Oui, sur le reste à charge, effectivement, pour l'ensemble de la population, on a commencé à y travailler, en particulier sur les tarifications des médecins, puisqu'on en parle beaucoup, et mettons le pied dans le plat. Vous parlez de dépassement d'honoraires, moi je parle de complément d'honoraires. Pourquoi ? Parce que pour que certaines spécialités chirurgicale en particulier, ou obstétricale, subsiste dans les cliniques privées et en pratique libérale, nous avons été amenés, parce que les tarifications de la sécurité sociale ne suivaient pas, en particulier les coûts des charges assurance de responsabilité civile professionnelle. Donc il a fallu mettre en place des systèmes de compléments d'honoraires. Donc nous avons aujourd'hui une partie de ces compléments d'honoraires qui sont pris en charge par les assurances complémentaires, en particulier par les mutuelles. Et nous avons mis en place un système qui s'appelle le contrat d'accès aux soins, de façon à garantir aux patients que ces compléments d'honoraires soient pris en charge par le secteur mutualiste. Or aujourd'hui, malheureusement, pour des raisons complexes, à la fois techniques, mais pas que, aujourd'hui le secteur mutualiste ne s'est pas complètement engagé dans cette problématique-là, ce qui fait qu'effectivement, on a encore une partie de reste à charge en hospitalisation privée, alors que les outils existent. Allons plus loin et essayons de développer justement cette logique-là, parce que nous, médecins libéraux, on est tout à fait favorable à favoriser l'accès aux soins pour tous, dans tous les secteurs. On est tout à fait favorable pour arriver à ce qu'on appelle un reste à charge zéro, c'est-à-dire que collectivement, les différents systèmes prennent en charge l'ensemble du coût de la santé et qu'il n'y ait pas, de façon tronquée, inavouée, quelque chose qui reste à la charge des patients. Et ça, aujourd'hui, personne n'en parle. De la même façon qu'aujourd'hui, on parle de la sécurité sociale et du gros risque, mais ce qu'on appelle le panier de soins, c'est-à-dire ce qui est pris en charge collectivement, je suis désolé, la sécurité sociale l'a déjà fait, mais elle l'a fait de façon implicite. Il faudrait quand même qu'on mette clairement sur la table le fait qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, elle s'est désengagée de l'optique, du dentaire et de ce qui est appareil auditif.
Sur les soins
et
de
ça,
ville,
c'est un vrai problème.
Sur les soins de ville, le reste à charge, il est en fait de 50%, quasiment de la moitié. Oui. Simplement, bien pour sûr. Certains, c'est pris en charge par les mutuelles, mais le reste à charge est de la moitié, Christian Saout.
Absolument. Bien sûr. Non, c'est sûr. Je veux dire, on n'a pas résolu cette question-là aujourd'hui dans notre pays. 50%, effectivement, en médecine de ville, c'est le reste à charge moyen. Évidemment, quand on rentre dans les domaines comme l'ALD ou quand on rentre dans des questions les d'intervention chirurgicale, évidemment, les restes à charge sont moins important encore qu'on trouve dans certaines maladies des restes à charge extrêmement élevés, notamment par exemple dans le cancer, on peut se retrouver avec 1000, 2000 euros ou 3000 euros de restes à charge pour certains types de cancers. Donc on a encore de gros efforts à faire, des efforts considérables, et c'est vrai que ce sujet-là n'est pas sur la table.
Et le professeur Grimaldi, j'entends qu'il a envie de réagir. D'ailleurs, oui. On arrive à la fin de cette émission, vous allez tous pouvoir dire un mot de conclusion. Professeur Grimaldi.
Oui, mais sur les dépassements d'honoraires, je comprends bien l'argument complément d'honoraires, parce que le secteur 1, le secteur conventionné, est dans nombreuses disciplines, pour nombreux actes, sous-valorisé, notamment pour la chirurgie générale. Mais rien n'explique que pour la même intervention, le cancer de la prostate, une prothèse de hanche, une cataracte faite en ambulatoire, les dépassements d'honoraires varient de 1 à 4 dans la même région. Il n'y a aucune explication. Il y a bien donc des dépassements d'honoraires, pas seulement des compléments.
Hein? Et l'hôpital public là-dessus,
ça,
professeur.
Faut arrêter le discours. Bon, rien n'explique, encore une fois, je vais le répéter, que les médecins prescrivent massivement le Crestor et que protestent parce que la sécurité sociale a dit désormais il faudra demander une entente préalable.
Excusez-moi, mon cher confrère.
Oui, docteur Ortiz.
Oui, excusez-moi, mon cher confrère, mais oui. Je vous rappelle que les dépassements d'honoraires ou les compléments d'honoraires, les taux les plus élevés sont à l'assistance publique de Paris, et Paris n'est pas la France.
En province, nous avons des taux.
Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que dans le secteur 2, il y en a aussi à l'hôpital public. Vous n'avez rien démontré avec ça. Et vous avez parfaitement raison. Il y a des dépassements d'honoraires scandaleux à l'hôpital public, mais arrêtez de dire que c'est des compléments. Il y en a aussi en dehors de la science publique. Je ne suis pas le porte-parole de la science publique.
Non, et puis vous êtes absolument contre les dépassements d'honoraires.
Qui considère que la santé est un bien commun et que quand on est conventionné, il n'y a pas un secteur avec dépassement d'honoraires. Alors, discutons du secteur 1. La ministre, de ce point de vue-là, s'est trompée. Discutons du secteur 1. Disons, revalorisons le secteur 1. Mais aussi, ne prescrivons pas... Par exemple, les cures thermales, faut m'expliquer ça. Les prescriptions de cures thermales.
Docteur
Pourquoi c'est remboursé par la sécurité sociale?
On arrive vraiment à la fin de cette émission, docteur Delofre.
Oui, le fameux contrat d'accès aux soins, il avait en principe un but qui était de régler le problème des dépassements et des gros dépassements. En pratique, il a abouti à ne pas toucher aux gros dépassements, parce que le chiffre de dépassement a plutôt augmenté quand on prend les chiffres de façon honnête. Non, quand on tripote les statistiques, on le fait baisser. Quand on regarde les sommes concrètes, retraites, ça a augmenté. Deuxièmement, il a permis un passage en dépassement d'honoraires d'un certain nombre de spécialistes qui étaient en secteur 1. Je parle en particulier des milliers de radiologues qui ont eu accès à un dépassement alors qu'ils ne l'avaient pas. Le résumé aujourd'hui, oui. Le reste à charge pour la médecine de premier recours, pour la médecine générale, il est effectivement de 50%, et c'est ça qu'il faut absolument modifier. Tant qu'on n'aura pas investi dans la médecine de premier recours, le reste à charge va augmenter. Alors demain, le problème sera réglé, il n'y aura plus de médecin généraliste, mais la fréquentation des urgences hospitalières est parfaitement la démonstration de cette carence du premier recours qu'il faut absolument favoriser, et pas en mettant de l'argent sur l'hôpital, mais en mettant de l'argent sur la médecine générale et sur les soins de ville.
Et en formant les médecins internistes. Lamine Garbi, vraiment un mot de conclusion
à la fin. Trois mots, que cette loi préserve cette liberté, liberté de la médecine libérale, liberté de choix pour le patient, je pense qu'on est tous favorables à ça, liberté également d'équité et puis de transparence. Voilà, on nous demande la transparence, que cette loi soit transparente et qu'elle intègre une notion d'efficience, on en a parlé, pour avoir, je dirais, un respect des différents acteurs publics, privés et associatifs.
Liberté, on y revient, dans lequel tous vos revenus reviennent, sont quand même assurés par la solidarité nationale, c'est quand même un point qu'il faut rappeler. Christian Saout, on arrive vraiment à la fin.
Ben justement, Claire, donc il faudrait faire attention qu'il n'y ait pas une rupture dans notre pays entre ceux qui contribuent à cette solidarité nationale et ceux qui sont chargés de produire et d'organiser et de dispenser des soins, parce que les gens au bout d'un moment dans ce pays vont finir par dire mais on comprend plus pourquoi on paye, pourquoi mettons-nous 210 milliards d'euros sur la table tous les ans pour avoir autant d'inégalités de santé.
C'est quand même un scandale. Vraiment un mot parce qu'on arrive à la fin de cette émission.
Simplement pour dire que les médecins libéraux sont tout à fait d'accord pour réformer et mettre à plat l'ensemble des problématiques du système de santé, mais toute réforme ne peut se faire qu'avec l'accompagnement, l'accord, la discussion des médecins libéraux qui, eux, connaissent bien les problèmes sur le terrain.
Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus. Merci vraiment, professeur Grimaldi, d'être intervenu en cours d'émission. Bonne journée à tous et à demain.